des merveilles, chérie. À la vie, à Césaria sous le soleil, chérie. Au petit pays, aux couleurs de Brasa, Brasero Brasil, les fardeaux, les playas, un peu Brazzaville. Il y a des voix ici qui voyagent, chérie, et de l'amour dans leur langage. Petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup.
FM 90.3.
Il est 11h.
Quel plaisir de vous retrouver sur les antennes de Côte Sud FM, 11h, et c'est parti pour un direct du Festival de la BD qui se situe à La Benne. Alors, je vais appuyer sur le bouton et on va demander à Bernie et Sandrine qui sont au bout de ce bouton pour savoir s'ils sont bien arrivés, s'ils ont ouvert leur micro. Bonjour Bernie, bonjour Sandrine.
Bonjour Rico Lastico, ça va?
Ça marche. J'ai toujours
ça marche. Alors là, pour le moment, c'est
David. Sandrine a changé de voix.
Ouais.
Mon Dieu. Mais il est là, c'est mon David. A... Bonjour David, comment vas-tu?
Ça va et toi?
Impeccable.
David qui a voulu nous accompagner aujourd'hui parce que déjà c'est sa première en studio extérieur et puis c'est un amateur de BD, voilà. Donc et nous avons notre premier invité.
Et oui.
Christophe Douniac. Bonjour Christophe. Ça marche, tu reçois bien Christophe, Eric?
Il faut qu'il parle dans le micro, là.
Ouais. Ah, mais.
Il faut qu'il parle dans le micro, là. Parce que là, moi, je l'entends là, très loin. Ah, là, c'est mieux, là. Merci.
Bonjour à tous.
Bonjour
voilà.
Christophe.
Alors, on reçoit Christophe Douniac, auteur-illustrateur. Il a aussi une espèce game, mais ça, il nous en parlera tout à l'heure. Ça, il rigole. J'ai fait mon premier accro verbal.
Escape game, mais tu peux dire aussi sortie du jeu.
Oui, escape game. Escape game, il y en a de plus en plus. Ah, mais tiens, puisque tu fais le malin, on va parler tout de suite de l'escape game. Comme ça, tu...
Punition.
Voilà, punition. Alors, cet escape game, il se situe où?
Alors, toute mon activité, quand je suis pas sur des salons, se passe à Florence, dans le Gers. Puisque donc, j'ai une maison, on va dire, atypique, où j'ai les chambres d'hôtes pour accueillir les gens pour les salons, stages, et l'escape game est en train de se construire sur un de mes romans graphiques que tu as sous les yeux.
Dont on va parler tout à l'heure. Ah oui, mais alors tu as un complexe... chambre d'hôtes... Ah oui, tu fais pas dans la gnognotte, toi.
Non, avec la sortie de confinement, il fallait bien regrouper, on va dire, les activités à un même endroit.
D'accord.
Donc ça fait 7 ans maintenant que je suis dans Gers. Avant, j'étais à Toulouse, Paris, etc.
Ouah, bon, Toulouse.
Ouais, voilà. Bon, on va pas faire la bio aujourd'hui, mais voilà. Donc aujourd'hui, si tu veux, l'endroit où on travaille et on vit... est un endroit où on accueille le public pour les stages, puisque je donne des cours de dessin et de peinture.
Mmh.
Et puis aussi, j'ai ce projet d'escape game qui ouvre cet été sur ce roman graphique avec « Vous êtes des voyageurs du temps, vous rentrez dans une salle et il y a un décor style cinéma et vous devez résoudre des énigmes en groupe et ressortir dans un temps imparti. »
Est-ce que dans l'escape game, il y aura Kung Fu Panda? Youhou!
Pas du tout.
Bon, il n'y a pas Kung Fu. J'arrive jamais à le placer, mon Kung Fu Panda. Sauf dans les programmes de cinéma, mais maintenant, ça va tirer à sa fin. Alors, pour rapidement, en quelques mots, pour nos auditeurs et nos auditrices, c'est quoi un escape game?
Donc, en fait, c'est un jeu en équipe où il faut communiquer, puisque si toi, par exemple, tu vois un coffre et tu veux l'ouvrir, tu vois la clé du cadenas qui est cachée dans une boîte, tu vois, tu vas devoir trouver le code pour l'ouvrir. En gros, voilà, c'est un jeu de fouille, un jeu de logique aussi. Il y a des maths, des fois, il faut calculer, etc. Enfin, ça dépend, quoi. Ça dépend de tout. Ça dépend de toutes les compétences de l'équipe. Il faut surtout communiquer, trouver les infos en groupe pour essayer de sortir de salle, de pièce en pièce, quoi. Voilà.
D'accord. Et est-ce qu'on a le droit de prendre la masse ou le marteau, péter
la
boîte?
Justement, on est contre ce
principe.
C'est pas
rigolo.
Donc, justement, on met des règles un petit peu en amont. On donne comme dans les jeux de rôle, on donne un peu l'univers au départ. Vous êtes des voyageurs du temps, vous devez trouver un objet pour ressortir, et donc c'est assez multimédia aussi, tu vois, il y a des informations cachées, il y a des ambiances de lumière.
Ben, c'est ce qu'on appelait tout simplement autrefois un jeu de piste, hein.
Exactement.
Sauf qu'il y a maintenant comme il y a eu tous ces romans et ces BD un petit peu fantastiques, heroic fantasy qui sont sortis, voilà, donc tout le monde s'adapte et c'est très très sympa. Alors des escape games, il y en a de différentes sortes, il y a des policiers, il y a des fantastiques, il y a plein de choses, il y a même des escape games cuisine aussi, gastronomie et tout ça, c'est rigolo. Alors c'est où dans le Gers ça?
Florence,
ouais.
À côté de Lectoure pour ceux qui connaissent, sinon ouais. On est à presque une heure de Toulouse, voilà.
Oui, c'est ça. Alors, aujourd'hui...
Mais tu me disais aussi...
Pardon, vas-y David.
Ouais, tu me disais aussi que dans les chambres d'hôtes, pour les petits déjeuners, pour les repas, on les prenait dans la galerie.
Oui, en fait, si tu veux, j'ai un atelier d'art. Tu peux pas dire galerie parce qu'on exposerait les autres artistes. Du coup, là, ce ne sont que mes tableaux et dessins. avec les livres dédicacés, etc. Et l'idée, c'était de faire le petit-déj, ouais, dans un univers qui est le nôtre, en fait, avec donc les tableaux accrochés au mur. Ça permet aux touristes qui viennent en vacances découvrir le Gers de se retrouver dans une galerie sans avoir à oser pousser la porte. En fait. Mmh. Voilà. Ouais.
Donc, aujourd'hui, tu es sur ce salon. Je crois que c'est la première année où tu viens, toi ?
Oui, c'est ça. L'an dernier, c'était la première. Là, on est sur la seconde et moi, c'est la première.
Moi, j'ai un écho, là. J'ai un écho dans le casque qui n'y était pas tout à l'heure. Là, je crois que je ne l'ai plus, mais il faut faire attention. Au studio, j'ai un écho dans le casque. Alors, ça peut être problématique pour l'enregistrement, Eric. Il faut que tu regardes ça. Alors, la BD, qui est en auto-édition, à des éditions Christophe Dougnac.
Oui, en fait, on a les Mondes Imaginaires éditions depuis 2 ans. Et avant, j'étais en crowdfunding, c'est-à-dire participation du public pour l'ouverture à une campagne, en fait. Et du coup, c'est le public qui votait un petit peu et qui participait au livre. Voilà. Donc au D'accord. début, j'étais en auto-édition et maintenant, j'ai une maison d'édition avec mon épouse, du coup.
D'accord.
Les Mondes Imaginaires éditions. Donc là, sur ce salon, on est en maison d'édition. Et donc les autres romans graphiques qui sont présentés sont donc aussi édités par nous-mêmes. Ça nous permet d'avoir, si tu veux, tous les métiers du livre réunis à la maison, sans l'impression, comme on disait tout à l'heure. Donc c'est vraiment la maquette du livre, puisque j'ai été graphiste pendant 20 ans. La prise de vue des originaux, parce que ça c'est aussi un boulot pour respecter les couleurs, etc. La typographie, la mise en page, etc. Donc ça c'est un soin particulier que j'ai voulu dès le départ, c'est-à-dire être pratiquement en circuit court et avec le public directement en rencontre et pouvoir gérer aussi mon... entre guillemets, patrimoine, tu vois, les images, j'en fais un peu
oui,
ce que
ton
je
ton patrimoine artistique.
Voilà, personnel. C'est ça, tout à fait. Ouais.
Et ton épouse, sans indiscrétion, elle travaille pour la maison d'édition et l'escape game et tout ça aussi.
C'est ça, c'est-à-dire qu'elle s'occupe pour les chambres d'hôtes, par exemple, des petits déjeuners, elle s'occupe de l'administration, de me placer sur des salons, elle fait le travail d'agent artistique et commercial. Et en plus, du coup, même en relecture, etc. Enfin, elle est là, elle est présente sur beaucoup D'accord. de points dans le travail.
Une vraie team, quoi.
Une vraie team, ouais, à deux, voilà. Exactement. Là, d'ailleurs, on a appelé ça la Maison Dougnac depuis plus d'un an. Maintenant, on a réuni tout.
Parce que hier soir, on a eu l'honneur d'être invité à la présentation du festival. Il y a un petit pot très agréable sur la terrasse. Et Paul disait à tout le monde qu'il avait passé une mauvaise nuit normale avant le premier jour. Ça a été mieux ou pas ?
Oui, mieux. Ah. De toute façon, la fatigue m'a terrassé.
Non, mais parce qu'il faut rappeler quand même que hier, il y a eu une animation. Ça y est, le nom du bar m'échappe.
À la Fabrique.
La Fabrique, voilà. Donc ça s'est bien passé ?
Oui, super.
Il y a eu du monde ?
Il y a eu beaucoup de monde, un très très beau concert et de très très beaux dessins.
Ah ouais, parce qu'en plus c'était filmé, enfin c'était...
C'était filmé, ouais. Les dessinateurs ont filmé la feuille par au-dessus,
ouais.
Et c'était retranscrit sur un écran géant.
D'accord.
Donc c'était vraiment assez grandiose.
Alors je rappelle à nos auditeurs qui ont encore le temps de venir à l'Amen, hein, nous dites pas que vous le saviez pas maintenant, parce que il y a deux ateliers qui sont en cours, l'atelier comics manga avec Alex, ça c'est à partir de 9 ans plus adulte, et l'atelier BD avec Patrick Goulesque, qu'on avait eu le plaisir d'avoir l'année dernière, à partir de 9 ans et adulte. Et je dois dire qu'on en a un juste à côté, c'est très intergénérationnel, mais alors c'est studieux. Waouh ! Ça a l'air studieux quand même.
Oui. Alors là, c'est celui de Patrick qu'on voit là juste à côté.
Ouais.
En général, Patrick capte pas mal l'auditoire.
Ouais, parce que ça moufte pas et ça l'écoute. Il y a l'autre aussi où il y a pas mal de monde là, celui de David,
celui
d'Alex. C'est ça ?
Alex.
Alex, pardon. Alors, Paul.
Oui.
Cette première journée d'hier où un petit doigt indiscret m'a dit en ligne hier qu'il y avait eu presque plus de 500 visiteurs.
On est presque à 600, oui.
Moi, po.
Pour une première journée, sachant que l'an dernier, sur les 2 jours, on a fait environ 800 personnes.
Vous avez déjà
presque fait le score de l'an dernier. Ouais.
Et imaginons que vous doublez aujourd'hui, vous êtes à 1200, plus dimanche, des gens qui se baladent un peu plus. Qu'est-ce qu'on fait ? On vise le 1500 ?
On vise le 10 000.
On vise le 10 000, wouhou ! Kung Fu Panda.
Déjà, si on arrive à faire comme l'an dernier, on sera content parce que c'est changeant ici. Le temps est changeant, ouais. Les humeurs sont changeantes. Donc, il ne faut pas qu'on s'attende forcément à avoir autant de personnes qu'hier. Si on arrive à 800, c'est bien. Ça veut dire qu'on transforme l'essai de l'an dernier.
Mm.
Et si sur le bilan du festival, on arrive à 1000, c'est encore mieux. Donc,
Vous allez transformer l'essai. Vous n'allez pas faire comme le quart de finale de la Coupe du Monde. Vous allez le transformer l'essai. Et vous allez la gagner, cette Coupe du Monde du Salon de la BD, la Benambule.
Le rugby qui revient.
Ah, je ne peux pas m'en empêcher, c'est le pays de la Bechigue. Alors, si vous venez au salon, vous allez voir une équipe de lutins et lutines avec de beaux t-shirts, on va dire bleu marine foncé, le logo du festival, des super foulards aussi logotés vous pouvez pas les louper, hein.
Ah bah c'est le but.
Ouais. Donc vous êtes une équipe. Là, vous êtes combien du coup sur le salon là?
On est alors 8 membres de l'asso. Plus quelques bénévoles qui ne sont pas forcément adhérents à l'asso mais qui nous aident notamment pour tenir le bar et puis l'accueil aussi également puisqu'on prend des renseignements et puis on vérifie les inscriptions aux ateliers.
Ouais. Et puis après toi tu vas animer une battle cet après-midi.
Une battle. Alors on a c'est une des surprises de cette année. On a fait ça hier, ça s'est très très bien passé. Donc à 15h30, battle de dessin. Ce sont des artistes qui s'affrontent sur des thèmes variés, un petit peu farfelus.
Mmh.
Ils ont très peu de temps pour réfléchir et dessiner.
Mais c'est génial, ça.
À la peau d'y mettre, on voit qui gagne les épreuves.
Ça existe aussi dans les big bands, dans le jazz et tout. Et Christophe, alors, ils sont sympas.
Ça se voit qu'ils nous écoutent parce qu'ils dessinent.
Il est en train de faire un petit dessin rien que pour nous. Ça a l'air sympa. Ça a l'air d'être un dessin de radio. c'est super. On fera une photo, on le mettra sur s'il nous donne l'autorisation. Oui. Christophe, ils sont sympas, la Benambule?
Ils sont excellents. Voilà.
Ouais, alors dis pas pour revenir l'année prochaine.
Si, je compte très très bien revenir d'ailleurs. on a déjà parlé des projets pour l'année prochaine. Voilà, c'est une équipe à Nord. On a la possibilité de s'exprimer. On est très bien accueillis et surtout l'équipe est dynamique, donc avec des propositions hors festival. Et ça fait toute la différence puisque les battles, les concours permettent aussi au public qui ne connaissent pas les festivals de venir par curiosité. Mm-hmm. On a parlé aussi du centre aéré, du collège avec des interventions. Donc pareil, les parents se disent « Ah, c'est sympa, mon fils a dessiné ». Ils sont curieux, ils viennent nous rencontrer, ils voient être des auteurs en vrai. Et ça, c'est super. En fait, ça peut aussi créer des vocations.
Mais on les a vues hier, le collège, là, elles sont au taquet, les dames. Hein. Elles étaient au taquet. Oui. Et en plus, elles disaient l'année prochaine, enfin, elles sont partantes.
Ah, c'est un atout.
C'est du bonheur.
Cette dame, Bénédicte.
elle est rigolote.
C'est un atout majeur dans l'organisation aussi de ce concours interétablissement et puis de toutes les activités qu'on peut faire au collège. Parce que c'est quand même grâce à elle, c'est elle qui nous accueille, donc c'est elle qui défend en fait notre venue dans le collège. C'est grâce à elle qu'on a la chance de pouvoir faire venir des artistes comme Christophe.
C'est pas toujours le cas. Hein. C'est pas toujours le cas.
C'est ce que j'allais dire. Au niveau de la formation, ça se passe comment? Un peu un parcours de dessinateur, peintre, artiste.
C'est très difficile à répondre. Alors, en ce qui me concerne, moi, j'ai fait une école de graphisme publicitaire, en fait. Donc, j'ai eu la chance de découvrir ça très tôt. J'étais mal orienté. Je suis parti en technique, bac F1, etc. Et je souffrais. Parce que je pensais être... moi, je voulais déjà être designer, mais à l'époque, ça n'existait pas trop, les filières artistiques. Ou alors, il fallait rentrer dans le classique, filière classique. Et moi, avec mes notes de maths et de français, c'était pas terrible. Quoi.
Oui, puis je me rappelle surtout, moi, à l'époque, collège... Ou l'art plastique, ce qu'on appelait l'art plastique à l'époque, n'avait pas une place. C'était presque pour remplir l'emploi du temps. C'est pour ça que ça m'interpelle aussi cette professeure qui permet justement cette opportunité donc avec le collège et de valoriser un petit peu ce type de contenu. Parce que moi, dans mon exemple, ça n'a pas toujours été le cas. Il faut que je parle plus fort.
Et juste pour finir, du coup, pour répondre à ta question, c'est important de transmettre aux jeunes générations, surtout avec l'arrivée du tout numérique, etc. Enfin, l'arrivée, ça fait longtemps que c'est arrivé, mais dessiner, prendre une feuille, et c'est ce que je leur dis souvent, la roue, vous avez le centre, c'est le dessin, et tous les rayons sont tous les métiers possibles, en fait. Et le dessin est un langage universel, tout le monde peut y arriver, puisqu'on a appris à créer des lettres, hein, ABC, etc., après des mots et des phrases. Donc là, pareil, le dessin, on apprend les fondamentaux, les bases, et avec ces bases, on peut vraiment tout faire. Voilà.
Ben, c'est ce que disait le monsieur Patrick, qui est là en face de nous. Là.
Qui dessine
qui
fait l'atelier.
Non, non, pas qui fait l'atelier, le monsieur qui fait du graphisme.
Le calligraphe.
Le calligraphe. Qui disait qu'effectivement, un jour, il avait été, et le prof leur avait dit « Oh bon, c'est pas dessin, ben, écrivez votre nom ». Et ils ont écrit leur nom, et il leur a dit « Ben, vous voyez que vous savez dessiner ». C'était assez un témoignage assez poignant. Paul.
Oui.
Paul, on va en profiter quand même pour rappeler vos partenaires quand même, parce que c'est important, parce que si tout ça existe, c'est grâce à eux.
Voilà,
ça,
oui, parce que sans partenaires, on ne peut pas avancer.
Mmh.
Donc les partenaires, les gros partenaires qu'on a actuellement sont la commune qui nous finance et qui nous prête la salle et du matériel, et pas que ça, et la communauté de communes aussi qui nous subventionne et qui donne aussi... une certaine somme qui permet justement de faire des ateliers, toute la médiation en fait,
oui, tout au long de l'année.
Tout au long de l'année et aussi sur le festival. Si on peut faire intervenir des gens comme Christophe dans les collèges, c'est grâce à ça. Donc sans eux, on ne pourrait pas faire ce festival. Mais il n'y a pas que, il y a aussi l'enseigne Ozart qui nous fournit tout le matériel pour les ateliers qu'on fait tout au long du festival, et ça c'est pas rien, parce que quiconque fait un petit peu d'art sait à quel point
ça
le matériel
coûte, un peu cher,
coûteux. Voilà.
Elles étaient bien présentes hier aussi, bien représentées aux arts, avec deux jeunes femmes très souriantes, c'était très très agréable.
Et donc on est en partenariat également avec la fabrique Craft Beer, qui est le bar dans lequel on a fait le concert hier. Mm-hmm. Et les Affranchis, qui est un restaurant sur la Benne, qui nous fait des repas pour tout le monde en fait, des repas pour les auteurs, des pizzas. Voilà.
Alors ça, les Affranchis, Mac, c'est un petit clin d'œil à notre ami Rico. Mac, che cosa fai? La pizza.
Arrête de parler italien. Arrête.
Hein? Ah, ça y est, je me doutais qu'il allait prendre la main. Paul,
oui.
Organisateur heureux.
Oui. Ouais. Ça se passe bien,
ça se passe bien. Il fait beau. Enfin, nous, en tout cas, on vous remercie parce qu'on est dans un coin super. Mmh. On est sur une terrasse, tout
est
propre. On a un petit studio sympatoche qu'on a pu installer. Merci beaucoup de cet accueil. Eh ben, Christophe, on va te laisser aller quand même vaquer parce que t'es pas là pour parler à la radio toute la journée, te rouler les pouces. T'es là pour aller bosser aussi quand même un peu. Donc, merci beaucoup.
Merci
Christophe.
À vous. Et puis, au plaisir de vous revoir l'année prochaine.
Mais oui, on sera là. Et Paul, merci beaucoup. On va le laisser aussi. Paul, c'est la journée, c'est deux jours où il est assailli de questions, mais on va retrouver quelqu'un qu'il connaît bien. Alors lui, il a fait l'inverse. Il a mais alors moi, j'en veux un comme ça. Il a un super sweat orange avec un personnage de Dragon Ball Z bien connu. Alors tu te rapproches bien du micro, tu lances bien ta voix. Bonjour Cyril.
Bonjour.
Ah, mais ça, c'est un bonjour. Tu devrais faire de la radio, toi. Ça va, Cyril? Alors, c'est qui sur ton personnage?
Un joli Sangoku.
Sangoku, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. Mes enfants, ils les avaient en figurine quand ils étaient petits.
Je regardais ça quand j'étais petit.
Ah oui, toi aussi?
Eh oui, je suis né avec Dragon Ball au Club Dorothée.
Ah d'accord.
Eh oui, j'ai grandi avec tous ces mangas.
Alors Cyril, lui, il a pas connu le Club Dorothée, mais lui, c'est la génération d'après ou d'après-après, parce que bon, David, il fait jeune comme ça, le centaure, mais bon, il est plus si jeune que ça quand même. Alors Cyril, donc, c'est ton papa, Paul, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça.
Ça va? Et alors, ton papa, pendant le festival, est-ce qu'il est intenable? Est-ce qu'il est râleur? Est-ce qu'il est rigolo? Est-ce qu'il est pénible parce qu'il est jamais là et qu'il est court partout? Comment ça se passe? T'as le droit de dire, t'es au micro.
Hier, il était pas mal stressé parce que, enfin, voilà, quoi. aujourd'hui, je trouve que ça va mieux.
Ah! Mais c'est vrai qu'il a l'air un petit peu moins fatigué qu'hier.
Oui.
Alors, à la fabrique, ça s'est terminé tard?
Oui. au lit à minuit moins le quart.
Ouais, quand on sait qu'il va rebondir le lendemain. Bon, avec modération, bien sûr.
Oui, oui.
Avec modération, la bière. Bon, d'accord. On est d'accord. Du moins à l'antenne. Bref. Cyril.
Oui.
Alors, toi, la bande dessinée, les arts graphiques, c'est quoi pour toi? Ça représente quoi? Est-ce que c'est parce que papa s'en occupe ou c'est un goût, toi, que tu as aussi personnel?
C'est un goût personnel parce que j'aime bien dessiner. J'aime bien tout ce qui est créatif, imaginaire. Mm-hmm. J'aime bien dessiner.
Et tu lis, qu'est-ce que tu lis comme bande dessinée ou roman graphique?
En roman, je lis Harry Potter.
Ah oui?
Dragon Ball aussi.
Ouais, mais Harry Potter, t'as pas fini.
Là, si, je suis au dernier.
Ah oui, donc t'as commencé déjà bien, parce qu'ils sont costauds. Et est-ce que t'as vu les films?
J'en suis. Oui, j'en ai vu.
J'en ai vu.
J'en ai vu, oui.
Tu en as vu, pardon. Et alors, film ou roman?
Je sais pas. Je pense que je préfère le roman parce qu'il y a beaucoup plus de détails.
Ah ben oui, ben c'est la définition même, ouais. Effectivement. Le cinéma, c'est une adaptation dans lequel on doit choisir des moments et des scènes. Et alors, dans ta chambre, tu es du style geek à avoir les petites figurines, les mangas partout, les BD sous le lit, dans le lit, à côté du lit, sur les étagères, dans la cuisine, dans la salle à manger.
Dans ma chambre, j'ai deux tableaux de Iron Man.
Ah oui.
Et j'ai des figurines Marvel en Lego.
Ah, c'est sympa ça.
Après les BD, je les ai pas partout.
Ah.
Mais j'en ai quelques-unes de Patrick Goulesque.
Ah oui, qui est sur le salon d'ailleurs.
Oui, et voilà.
Et papa, il en a beaucoup de BD?
Oui.
On rappelle d'ailleurs qu'il y a un libraire de bande dessinée de la librairie de Bayonne.
Oui, c'est Jean Robert.
Jean Robert, mais j'ai le nom de la librairie.
Le bande dessinée.
Le bande dessinée, voilà. Pourtant, je devrais m'en rappeler parce que j'aime bien ce titre. Tu connais, David, le bande dessinée?
Non, pas du tout. Je l'ai découvert en regardant la programmation du festival. Et donc, mais je me rends pas très souvent à Bayonne, je te dirais.
D'accord.
Et la prochaine fois, je passerai faire un tour.
Alors, on est un peu entre collectionneurs, parce que David, c'est notre monsieur vinyle aussi à la radio. Et enfin, il y a un côté aussi un petit peu comme ça, geek, hein, avec les vinyles, hein, les collectionneurs.
Je pense que c'est un peu toutes les passions, en fait, quand on est dans quelque chose
qu'on
apprécie.
Sandrine est en train de nous faire un déménagement.
Une installation. Une construction, une performance live.
Ouais.
Et oui, ça se rapproche. J'ai des amis moi-même qui collectionnent aussi la bande dessinée, qui sont très dans cet univers-là, et c'est vrai que c'est intéressant.
Et toi, Cyril, qu'est-ce que tu fais sur le salon? Tu t'occupes de quoi?
J'aide un peu. Et après, je regarde.
Ouais,
je regarde.
T'en prends plein les mirettes,
ouais, voilà,
comme on dit. Et t'as participé à des ateliers?
Oui, hier.
Hier, t'as fait lequel?
Avec Christophe Duniac.
Ah ben avec Christophe, oui. Ah ben oui, il m'a dit tout à l'heure, c'est vrai, j'avais oublié. Et qu'est-ce que tu as fait toi dans cet atelier?
Une créature imaginaire. En fait, ça part d'un fruit. Mmh. Et après, tu le transformes en fait en truc bizarre.
C'était quoi ton fruit?
Une coloquinte.
Oui, d'accord.
Et je l'ai transformé en un truc avec des pattes de crabe.
C'est-à-dire, pour expliquer, puisqu'on n'a pas l'image, tu avais le dessin de la coloquinte, c'est toi qui l'as dessiné.
Oui.
Et après, au fur et à mesure de l'atelier, tu as rajouté,
voilà,
je sais pas, je dis n'importe quoi, un membre.
Oui, voilà. Exactement.
Et c'est devenu quoi?
Et c'est devenu
un être.
Ouais, voilà, un être avec un corps un peu triangulaire, avec quelques pics sur le côté, ouais. Des espèces de pustules et avec quatre pattes de crabe.
D'accord. Mais tu l'as où, ce dessin ?
Ce dessin, je l'ai à l'accueil.
Ah, mais tu vas venir nous le montrer tout à l'heure.
Oui, oui.
Parce que moi, ça m'intéresse. Je suis curieux de voir ce que peut devenir une coloquente, quand même. C'est génial, ça.
Oui.
En plus, c'est comme idée d'atelier, c'est sympa de faire partir d'un...
Ouais.
C'était le principe même de l'atelier. On partait d'un fruit. C'était un fruit ?
Non, pas forcément un fruit. Un animal, tu pouvais faire des chimères, tu pouvais faire ce que tu voulais. Tu pouvais prendre, par exemple, un elfe et un humain, tu pouvais les fusionner, ça pouvait faire des trucs géniaux.
D'accord.
Je vois que tu as déjà plein de projets, j'imagine. Tu as déjà pas mal d'idées.
Et est-ce que tu, chez toi, tu as dessiné et créé une petite BD ou un petit manga où tu songes à une histoire ou pas ?
BD, non, mais les dessins, en fait, je suis pas trop BD. Parce que je sais pas, j'arrive pas à bien mettre tous les personnages bien comme il faut.
Ah ben ça s'apprend.
Et voilà, oui, ben oui, justement.
Mais au 150e festival de la Benambule, tu y arriveras.
Ah oui, oui, bien sûr.
Bien sûr, bien sûr.
Et cet après-midi, il me semble qu'il y a un atelier, parce que tu parlais de l'univers Harry Potter, il me semble qu'il y a un atelier sur les animaux fantastiques qui est de l'univers d'Harry Potter, il me semble.
Ah, c'est possible.
Bah écoute, Cyril, merci beaucoup. Et qu'est-ce que tu voudrais dire à nos auditeurs, à nos auditrices, pour leur donner envie de venir aujourd'hui au salon La Benambule et surtout de lire de la BD, des romans graphiques, des mangas? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Profites-en.
Eh bien que franchement, s'ils devaient faire quelque chose pour que les gens lisent ou pour que eux-mêmes lisent, ça serait qu'ils aient envie. Enfin, faut pas que quelqu'un fasse du dessin s'il a pas envie ou si...
Ah ben ça c'est condition sine qua non, comme on dit. Il faut pas forcer, pas se forcer.
Exactement.
Parce qu'autrement ça sert à rien, effectivement. Oui. Et il faut que ça reste un plaisir.
Voilà.
Autrement, si tu prends pas de plaisir, c'est pas la peine. Va faire du foot à la place.
Ouais, voilà.
Ou du rugby.
Ou du rugby. Mais t'as remarqué que j'ai pas parlé de Bushig. Hein, bon. Mais tu fais peut-être aussi du foot ou du rugby. Parce que c'est bien aussi. Judo. C'est bien de faire du sport et un côté culturel et créatif. C'est bien d'aller. Oh, mais il y a un petit peu de vent qui se lève. Ouh, il y a un monstre qui arrive. C'est qui arrive là? Un monstre sorti des BD de nos dessinateurs. Eh bien, en tout cas, Cyril, merci beaucoup.
De rien.
On est rassuré, on peut dire que le monde de la BD, du manga et de l'art graphique, eh bien, il y a des jeunes qui sont dessus. Donc ça perdure et ça a de l'avenir. Alors moi je vous propose une petite pause musicale avant de retrouver deux nouveaux invités en tous les cas. Merci beaucoup Cyril.
De rien.
Côte Sud FM 90.3, la radio Sud-Aquitaine.
Qui ont su traverser les océans du vide, à la mémoire de nos frères dont les sanglots si longs faisaient couler l'acide. Always lost in the sea, always lost in the sea. Tout part toujours dans les flots, fond des nuits sereines, ne vois-tu rien venir? Les naufragés et leurs peines qui jetaient l'encre ici et arrêtaient d'écrire. Always lost in the sea. Always lost in the sea. Always lost in the sea. Always lost in the sea.
crève un abcès, c'est le poison qui coule. Certains nageaient sous les lignes de flottaison intime à l'intérieur des poules. Oh, sombrero de la mer qui ont su traverser les océans du vide. À la mémoire de nos frères dont les sangs ont si longs faisaient couler l'acide.
Flower, et vous écoutez Côte Sud FM 90.3.
C'était Noir Désir avec Eau Sombre, héros de la mer. Mais eux ne sont pas sombres, mais ils sont nos héros qui sont en direct du festival La Benne en Bulle. Ah, La Benne évidemment, c'est Sandrine, David et Bernie.
Et oui, on est toujours à La Benne en Bulle. Alors notre invité précédent, Cédric, est en train de nous réaliser un petit dessin.
Cyril,
parce que j'ai dit Cyril. Cyril est en train de nous, c'est parce que j'avais un Cédric devant aussi, réaliser une petite œuvre rien que pour nous. Ça, c'est chouettos. Alors, Yann Kozik, Cédric Mayen, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors, Yann Kozik, dessinateur, Cédric, enfin dessinateur et scénariste.
Oui.
On va le préciser tout à l'heure, oui, voilà. Et Cédric Mayer, lui, plutôt scénariste. Parce que, bon, il a décidé des petits dessins quand il était petit, et puis, bon, il s'est rendu compte qu'avec les scénarios, ça marchait mieux pour les filles, donc il a pris les scénarios plutôt que le dessin.
C'est pas exactement ce qui s'est passé.
C'est pas exactement... Mais on fait ce qu'on veut, après, avec l'histoire et la vérité. On revisite l'histoire. Alors, il faudra bien parler, bien en face des micros, et bien près des micros. On va commencer par Yann.
Ouais.
Alors lui, il a choisi les dessins.
Hein ?
Donc ça marche. là, moi, j'ai plusieurs BD devant les yeux, notamment Mardival, là où c'est Yann qui l'a signé tout seul.
Ouais, c'est sorti très récemment, là, le 24 avril. Et donc oui, j'ai fait l'histoire et le dessin et la couleur. Quoi.
Aux éditions Glénat,
ouais.
Ce qui n'est quand même pas de la gnognotte. Hein.
Oui, c'est un bel éditeur.
Ouais. Ouais. Comment on fait pour rentrer chez Glénat?
Bon, alors déjà, Mardival, c'est pas mon premier projet. Avec Cédric, on a d'abord fait toute la série Erwan. Et donc du coup, moi, j'avais envie de faire autre chose, de dessiner mes propres histoires. Et donc, enfin, j'ai proposé ce projet tout simplement. J'ai d'abord proposé à d'autres éditeurs, ça a pas fonctionné. Et puis chez Glénat, ça l'a fait. Enfin voilà, ils étaient intéressés. Et puis après, on a pas mal discuté ensemble du projet. Il a pas mal été refaçonné. Voilà, au fil de nos échanges.
Un travail d'éditeur.
Bien sûr, ouais, un super travail d'éditeur. Ouais.
Mm. Et alors, on est dans un univers un petit peu moyenâgeux, là.
Ouais, complètement, ouais.
Avec Mardival, ça fait un petit peu penser à Johan et Pierre-Louis.
Ouais, on en a un peu parlé aussi avec mon éditeur, c'était une ref un peu commune. Je pense que c'est l'effet capuchon moyenâgeux, les ouais. Petits capuchons crénelés, là, tout de suite, oui. Ouais. Comme je suis sur un dessin un peu ligne claire, très, très simple... oui.
Alors, il y a aussi des signatures en compagnie de Cédric, pardon, notamment Erwan. Alors là, on va être dans une époque beaucoup plus moderne, hein, parce qu'apparemment, c'est les aventures d'un skater, c'est ça ?
C'est ça, ouais.
Alors, qui est skater dans les deux ?
Plutôt moi, pour le coup. Ouais.
Ah, t'es skater?
Ouais.
La glisse?
Je le fus pendant assez longtemps.
Bon, après que tu te sois cassé trois poignets, deux genoux.
Une belle triple fracture ouverte, du bras qui m'a, il y a 2 ans, qui m'a un peu fait arrêter, mais en même temps qui m'a aussi donné l'inspiration pour le tome 4. C'est-à-dire qu'on voulait finir la série, on avait toujours. On était parti de l'idée de raconter l'adolescence d'un jeune garçon au travers du prisme du skate. Et donc l'idée, c'était de l'amener de ses 10 ans à ses 18 ans. Et c'est ce qui se passe sur les quatre tomes. Et donc le dernier tome se passe... Donc on n'a pas eu la licence pour pouvoir parler des Jeux Olympiques, donc on va dire une compétition internationale
voilà. Mondialement connue.
Exactement.
Avec 5 anneaux.
Voilà, et qui va 6. Se passer dans une capitale européenne dans quelques temps. Et donc voilà, là il va avoir, jusque-là il est passé au travers des petits écueils et des accidents, et là sur celui-là, on va voir un peu tout ce qui se passe suite à un accident pour un sportif de haut niveau. Et notamment, une grande partie de l'intrigue se passe au CERS à Cap-Breton, donc pas très loin d'ici.
Ah voilà.
Où il va faire sa rééducation. Et donc, on suit un petit peu tout le parcours justement de la rééducation. Et le titre, c'est « Roulement résilient » parce qu'il y a toute cette idée de résilience derrière.
Et effectivement, il arrive des malheurs à ce... Comment il s'appelle déjà ?
Erwan,
voilà, c'est ça. Alors par contre, les dessins de skate et de planche sont bien croqués. Il y a bien on voit bien les gestes quand on a un peu l'habitude de les voir. Et toi, Yann, t'es pas skater, toi ?
J'ai fait du skate quand j'étais au lycée. J'ai eu une petite phase de skate.
D'accord.
Et je me suis cassé la cheville, donc ça m'a un peu... Je suis pas devenu pro.
Moi, j'ai eu un gamin qui était skater, il s'est caché le coude, le genou, tout y est passé.
Ce que je dis à mon fils, le skate, ça fait mal.
Oui.
Le premier truc à savoir, c'est tu fais tourner un gros bout de bois avec des morceaux de métal entre tes pieds, en général...
Et surtout qu'à cette époque-là, il y avait les jacasses, les fameuses jacasses, donc ils voulaient faire comme les jacasses. Mon Dieu, bref. Alors, il y en a une autre que vous avez co-signée aussi.
Non, pas celle-ci. Celle-ci, c'est avec un autre dessinateur.
Ah oui, excuse-moi, c'est avec Mad.
Oui.
Alors là, c'est toi, Cédric. Paul Trominet. Alors ça, c'est Herminet.
Oui, ça, c'est chez Dupuis, c'est dans le journal Spirou, pour les lecteurs du journal Spirou, voilà. Ça sera en 3 tomes pour l'instant, donc il y en a 2 de sortie. On est en train de fabriquer le 3e là, avec Mad en ce moment. Et on suit le destin d'un petit chat qui a été abandonné par ses maîtres à la fin des vacances et qui décide de partir, de les retrouver en fait. Donc il va faire un long road trip dans la campagne française et il va découvrir que, hors du regard des humains, en fait, les animaux se sont organisés en société, avec des règles, des lois et des injustices forcément.
Mm.
Et donc lui qui découvre tout ça et qui est un peu un social justice hero.
Voilà, c'est bien dit.
il va découvrir ce nouveau monde et aussi le rapport qu'il y a par rapport aux humains.
Donc, alors, je voulais, Yann, entre Mardival et Erwan, alors c'est 2 univers différents, mais on retrouve une même patte de dessin un peu sur les personnages.
Oui, de toute façon, on reste sur des projets jeunesse. Moi pour l'instant c'est quand même quelque chose avec lequel je suis à l'aise, ça me permet de faire des dessins un peu naïfs, un peu cartoon, enfin bref, et donc oui, après voilà, même si j'aime bien explorer des esthétiques différentes et tout, je reste quand même le même dessinateur, donc je peux pas trop échapper à je pense qu'on reconnaît que c'est moi qui ai fait les...
Oui,
les
c'est ça, il y a une patte. Et quels sont tes dessinateurs de prédilection, toi? Il doit y en avoir beaucoup, mais...
Ouais.
C'est la question qui tue.
Ouais.
Mais on la pose à chaque fois.
Ouais, non, je sais pas. Il y en a beaucoup, beaucoup.
Oui, c'est ça. Mais un ou deux, vraiment.
Ouais, je vais citer des mangaka, en fait. Je vais citer, Toriyama, Naoki Urasawa, Rumiko Takahashi.
Parce que t'es en fait t'es de la génération manga.
Ouais, je suis.
Mais c'est... Est-ce que tu considères que toi tu fais du manga ?
Non. Je suis pas japonais déjà, donc.
Ouais. Non, mais il y a des Européens qui font du manga.
Non. Après, ça reste une grosse source d'inspiration. Enfin, c'est le voilà. Mais après, j'aime beaucoup aussi la BD franco-belge. Bah, on parlait de Joanne et Pierre-Louis. Et puis même l'univers, de toute façon, de Mardival, comme Erwan, hein, c'est très... très occidental, quoi.
Après, ce qui a amené le manga aujourd'hui aux auteurs de BD actuels, c'est une narration. C'est peut-être un peu plus de rapidité au niveau de la lecture, de pas utiliser forcément que de la ligne claire ou des cases carrées, mais de savoir décadrer un petit peu ces cases pour amener du mouvement dans l'image. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même une génération d'auteurs qui ont été biberonnés à ça. Alors, moi, je suis plus de la génération qui a été biberonnée par les animés au Club Dorothée. Et ensuite, il y a la
Kendo, un autre Club Dorothée.
Voilà. Ben oui, mais oui. Mais ça a marqué beaucoup, beaucoup de monde à mon époque. Années 90, et voilà, tout, c'est Ken le survivant.
En fait, ça nous a amené quelque chose qu'on ne voyait pas, un imaginaire qu'on n'avait pas forcément et une narration qu'on n'avait pas forcément. Et ensuite sont arrivés les mangas papier, qui, eux, ont vraiment nourri, je pense, la génération d'auteurs, pas forcément dans le style de dessin, mais dans le style de narration. Et ça, c'est quelque chose, moi, quand j'ai découvert le travail de Yann au début, quand l'éditrice de Jungle m'a proposé de travailler avec Yann, où tout de suite... j'ai vu quelles étaient ses inspirations et j'ai vu ce qu'on pourrait en faire et ça a été très très simple quand on a fait les storyboards ensemble. Donc l'étape où on est entre le scénario et le dessin final et où on va commencer à placer les cases, les personnages, les cadrages, etc.
Oui, donc vous commencez par le scénario.
On commence par le scénario, ce qui est assez logique, mais le scénario c'est un outil. C'est pas quelque chose de définitif en soi, c'est vraiment un outil que moi je donne au dessinateur pour lui évoquer des images et pour lui dire voilà à peu près ce qui va se dire, ce que les personnages vont échanger comme information. Et après, de ça, lui va faire un premier storyboard où il va me dire lui ce qu'il voit comme image. Et après, on va en discuter ensemble parce que le but, c'est d'avoir la meilleure narration possible.
Et est-ce que ça vous arrive d'être bloqué ? T'amènes et puis Yann, ben il arrive pas. Il arrive pas. Ou Yann, il attend de la matière scénaristique et toi, ben ça sort pas et puis vous êtes bloqué ou vous êtes pas d'accord. Est-ce que ça vous arrive de pas être d'accord ?
Alors ouais, ça nous arrive, mais justement c'est là où il y a cette étape du storyboard qui est intéressante parce que c'est l'étape où on pose l'ego. Chacun pose son ego de côté, c'est-à-dire que l'ego de l'auteur, moi ça va être dans l'écriture et lui ça va être dans le dessin, mais au niveau du storyboard c'est un moment où on va mettre ça de côté et c'est juste l'histoire. Qu'est-ce qui est le plus important, c'est l'histoire. Et il faut savoir accepter les critiques que l'autre va faire, notamment sur le fait que des fois les personnages étaient ou tout noir et tout blanc et que ça manquait un peu de gris dans l'écriture des personnages.
Vous avez la chance de, parce qu'il y a des scénaristes et des dessinateurs qui travaillent ensemble, il y en avait à un moment, maintenant il faut faire beaucoup de choses pour pouvoir en vivre, mais qui faisaient que ça. Là, vous avez la chance de faire des choses à côté dont vous exprimez différemment, parce que les gens qui travaillent ensemble tout le temps, au bout d'un moment, on peut...
C'est un couple.
Ben oui, c'est ça. Non, mais c'est un couple créatif, quoi, artistique. Et parce que il faut quand même une certaine capacité à pouvoir appréhender un scénario, l'imaginer dans sa tête et après le reproduire quand même.
Quand on fait tout seul.
Non, même quand on travaille avec quelqu'un.
Ah oui, bah bien sûr, ouais. Mais c'est une collaboration. Hein. C'est on a la chance de très bien s'entendre, Cédric et moi. Parce que bon, pour l'histoire, on se connaissait pas en fait avant de commencer.
Ouais, j'allais vous poser la question, donc voilà. Tu réponds.
c'est l'éditrice des éditions Jungle en fait qui s'appelle Héloïse Rago et c'était son initiative en fait à elle de créer une série jeunesse autour du thème du skate. Parce que c'était assez inexistant en fait, il n'y avait pas beaucoup d'exemples. Et en fait,
oui, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose. Alors que plein de gamins font du skate.
Non, mais ça paraît évident quoi. Et donc voilà, elle nous a trouvés tous les deux et là on a commencé à travailler ensemble et effectivement on s'entend hyper bien. Et ce qui permet aussi de facilement s'adapter en cours de route. Effectivement, des fois, moi je. Tu parlais de blocage.
Le tome 3.
Ouais, une histoire.
Non, mais bon, tome 3 et tome 4, il y a forcément des moments où moi je bloque un peu parce que, par exemple, je vois pas trop comment représenter une scène. Ou alors, des fois, Cédric, il mettre trop d'actions dans une page et je peux pas tout faire rentrer, ça c'est sûr. Mais du coup, je dois choisir comment je synthétise tout ça. Et en fait, on a mis quand même un peu de temps avant de comment dire, que moi je puisse accepter. Enfin, que je.
non mais vas-y, vas-y.
Choisis bien tes mots, choisis bien.
Ouais. Déboulonne-le.
Non, mais que. Qu'on se dise, ok, on peut retravailler le truc. Et Cédric m'a fait confiance, en fait.
C'est une histoire de confiance.
Et au bout d'un moment, bah, en fait, au lieu de bloquer comme un débile sur ma page, bah, je proposais quelque chose d'un peu différent en supprimant peut-être une ou deux actions, un ou deux dialogues. Et puis, je propose à Cédric. Et puis voilà quoi.
Bah, j'ai un peu ce rapport là avec tous les. Je travaille avec beaucoup de dessinateurs, là j'en suis à mon 16e ou 17e album, je sais plus. Et j'ai toujours dit, c'est un des premiers trucs que je dis aux dessinateurs, c'est mon scénario n'est pas quelque chose de définitif. C'est-à-dire que moi je mets toutes les idées, les envies que j'ai dedans, mais si à un moment techniquement c'est pas possible ou que ça ralentit l'histoire, que ça ralentit le rythme et que ça emmerde le dessinateur. Je suis absolument pas contre le fait qu'il réécrive une partie des dialogues sur une page parce qu'en fait il se dit ouais mais là tu répètes des trucs ça sert à rien ou là c'est un peu cucu, on peut le virer. Oui, en fait c'est un outil. Et après de toute façon moi je fais toujours un dernier passage sur les dialogues, c'est-à-dire que au moment où l'album est en cours de finalisation, donc à peu près toutes les pages sont finies, je reprends tous les dialogues un par un. Et je vais virer des trucs, je vais les changer. Des fois, on écrit quelque chose dans le dialogue qui exprime une idée ou un sentiment. Et en fait, c'est dans l'image. C'est-à-dire que le dessinateur, quand il a vu le dialogue, il a vu le personnage dire « Ouais, je suis super énervé parce qu'il a dessiné le personnage énervé. » Bah, j'enlève la partie de dialogue et je vais mettre quelque chose d'un peu plus intéressant à la place. Mais en tout cas, lui, ça lui a permis d'avoir cette évocation de l'énervement et donc d'avoir retranscrit avec le personnage. Et comme en BD, on essaye de pas... on a été coupé par la musique.
Mais non.
Comme en BD en général, il y a un truc qui est super important qui s'appelle le show don't tell, c'est montrer et ne pas dire. On va essayer de pas faire de répétition entre ce qui est vu, ce qui est dessiné et ce qui est dit. Donc voilà.
Ok. Pardon. Nous avons
question.
Très peu de temps.
Ok. Je voulais savoir, est-ce que ça t'arrive toi de prendre le crayon et de dessiner? Alors, pour communiquer avec ton binôme.
Ouais, ça m'arrive de rebosser sur les pages. C'est-à-dire de prendre une page et